Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Je suis effectivement pharmacien de formation, j'ai effectué ma formation à Rennes et j'ai effectué une thèse sur la maladie de Parkinson et l'apomorphine, donc à Rennes aussi. Et ça fait 3 ans que j'organise la Semaine du Cerveau et que j'ai le plaisir de participer à cette manifestation annuelle. Alors cet intérêt en fait pour tout ce qui est histoire des neurosciences, ça fait assez longtemps que je l'ai et on a la chance à Rennes d'avoir une association qui s'appelle le Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes ou CPHR avec qui on a collaboré cette année pour la Semaine du Cerveau puisqu'on va réaliser une exposition dans le grand hall de Pontchaillou avec eux qui présentera des ouvrages et des objets historiques en lien avec la neurologie ou la psychiatrie. Donc ça me paraissait très intéressant de faire des liens aussi entre les événements eux-mêmes de la Semaine du Cerveau et de parler justement de l'aspect historique dans les représentations qu'on a pu avoir du cerveau et quels patients finalement, par leur cas clinique très particulier, ont réussi à faire avancer les connaissances ou ont permis de remettre en cause certains dogmes ou certaines questions qui pouvaient se présenter pour les cliniciens.
Et oui, on a le cerveau qu'on a reçu, mais d'où l'a-t-on reçu? Bien sûr, du patrimoine génétique. Pour fabriquer mon cerveau, j'avais besoin des gènes qui m'ont appris à fabriquer des cellules, des substances, des neurotransmetteurs, etc. Toutes les pièces élémentaires dont il est fait. Mais il a fallu ensuite ces pièces élémentaires en faire une machine. Cet outil qui me permet d'être, comme on dit, intelligent, c'est-à-dire de mémoriser, de comprendre, d'évoquer, d'inventer, d'être ému, d'aimer, etc. D'où ces structures me viennent-elles? Alors là, on est devant un paradoxe effroyable. Pour décrire mon cerveau, il faut décrire l'état d'environ 100 milliards de cellules, les neurones. Et ces 100 milliards de cellules communiquent les uns avec les autres par l'intermédiaire de connexions qui sont au nombre de 1 million de milliards. C'est un nombre tellement grand que la façon de le prononcer est tout à fait un leurre. En fait, pour le faire comprendre à mes étudiants, je leur dis, si vous avez des doutes sur le contenu du cerveau de votre professeur et que vous vouliez compter ses connexions, alors allez-y. Vous ouvrez, vous comptez les connexions et vous mettez une seconde par connexion. Et vous aurez fini dans combien de temps? Dans 30 millions d'années. Il y a autant de connexions dans mon cerveau ou dans celui de n'importe qui'il y a de secondes dans 30 millions d'années. Voilà le nombre fabuleux des éléments qui me permettent d'être intelligent.
Effectivement, on a souvent tendance à voir l'histoire de la médecine d'une façon plutôt du point de vue des cliniciens, effectivement. Et j'ai essayé de voir parmi les écrits ou les archives qu'on peut trouver relativement facilement et puis parmi les publications réalisées au niveau international par des cliniciens, par des neuroscientifiques et par des historiens. Et également aussi, puisque l'histoire des sciences, c'est quand même un mélange de disciplines, y compris de philosophie, de médecine, de sciences, d'histoire. Et donc, s'intéresser vraiment au vécu des patients, puisque c'est souvent ce qui est un peu passé entre guillemets sous silence quand on présente les cas. Voilà, c'est par exemple Phineas Gage, c'est un cas très connu en neurologie, en psychologie, en psychiatrie, et pour autant il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce personnage qui ne sont pas forcément vraies, et il y a eu un travail d'une très grande ampleur qui a été réalisé par un neuroscientifique et qui vraiment s'est intéressé au patient et à son histoire. Et j'ai trouvé cette approche vraiment intéressante et éclairante aussi pour les cliniciens qu'on peut être et qui parfois, voilà, on a tendance à voir la maladie et pas le patient. Oui. Donc cette approche me paraissait intéressante et en tout cas intéressante pour moi à développer.
L'histoire d'un homme qui survit au passage d'une barre de métal à travers son crâne, mais qui change de personnalité après l'accident, voilà le mystère Phineas Gage. Une énigme tenace pendant un siècle et demi pour les neurologues, jusqu'à ce que le docteur Anna Damasio et son équipe ne ressuscitent le cerveau de Phineas, livrant son secret, inspirant le diagnostic des Gage d'aujourd'hui, des patients qui, à la suite d'une tumeur ou d'un accident, connaissent cet étrange et même destin.
Alors Phineas Gage, c'était un contremaître, donc un ouvrier qui travaillait aux États-Unis dans les années 1850 sur certains chantiers et pour lesquels il a subi malheureusement pour lui un accident assez spectaculaire où il travaillait à faire exploser de la roche. Et pour ce patient, il y a eu un accident où en fait finalement l'explosion a fait qu'il s'est pris une barre de fer dans le visage, qu'il l'a traversé de part en part et qui a emporté une partie de son cerveau. Donc évidemment, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mort ou à ce qu'il ne survive pas à ses blessures, mais ça n'a pas été le cas. Et la prise en charge de ce patient a montré finalement des modifications de personnalité qui ont fait comprendre, en tout cas précipiter des questions sur les localisations cérébrales de certaines traits de personnalité, de certaines fonctions cérébrales, puisqu'à l'époque, on était encore sur des considérations des écoles de pensée différentes, hein, sur est-ce que le cerveau finalement fonctionne comme un tout, est-ce qu'il y a des zones qui sont dédiées à certaines fonctions. Et donc, ce patient a suscité beaucoup d'intérêt, pas forcément à son époque même, mais par la suite. On a raconté, effectivement, vu le caractère extraordinaire de son accident, c'est devenu un peu un sujet de... un mythe, hein, on peut dire ça comme ça. Et lui-même, pendant sa vie, a été présenté dans des cirques avec sa barre de fer. Donc effectivement, c'est un cas très très commenté, mais pour lesquels il y a eu des descriptions beaucoup, enfin un très très grossi par exemple sur certaines modifications de personnalité ou des choses qui ont été issues d'observations d'autres patients, notamment de patients lobotomisés et qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'avait pu être Phineas Gage. Donc c'était cette enquête de Macmillan qui m'a beaucoup intéressée et sur laquelle je me suis dit bon, ça serait intéressant de présenter ça aussi au grand public. Phineas Gage, c'est un cas pour lequel j'ai été confrontée très tôt, puisqu'on, même dans mes études de pharmacie, en fait, on en a parlé. Donc c'est montré à quel point ce patient est célèbre dans le champ des sciences. Après, chaque patient a une histoire différente qu'il faut forcément remettre dans le contexte de l'époque, parce qu'effectivement, quand on prend ces patients maintenant avec nos connaissances actuelles, la relecture est complètement différente. Mais je trouve qu'ils sont très intéressants quand ils sont remis en contexte, dans le sens où ils ont vraiment fait progresser. En tout cas, ils ont été malgré eux des rouages du progrès en science de façon globale, hein. Je vais aussi évoquer le cas de l'obusite ou du shell shock de la Première Guerre mondiale, hein. Ça a été pas un patient, ça a été des milliers de patients. Mais effectivement, c'est malgré eux qu'ils ont fait progresser les sciences et je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir cette approche-là. Et je trouve qu'ils sont tous intéressants, très clairement.
Tout ouvrage de réflexion sur le cerveau se trouve indéniablement limité à la fois par la disposition du cerveau de celui qui l'écrit et par l'état des connaissances au moment où il l'écrit. Alors, si j'en juge à travers ce livre, qui est vraiment imposant, qui dans toute la presse dit déjà que c'est un livre tout à fait important et peut-être même décisif, eh bien, j'ai l'impression que votre cerveau est bien fait, non ?
Bon, ça, je dois dire que c'est à vous de juger, c'est... au lecteur de juger.
Non, mais comment vous, qui vous intéressez, vous devez savoir au fond ce qu'il y a dans votre cerveau à vous. Vous intéressez au vôtre en particulier,
au lieu de vous intéresser je m'intéresse d'une manière générale au cerveau, oui. Et non seulement de l'homme, mais aussi des êtres vivants en général. Et notre propos dans ce livre, c'est précisément de mettre au courant un public qui n'est pas celui des spécialistes, des progrès récents de cette discipline qui est fulgurante dans ses développements.
Ouais. Mais je vais vous poser autrement la question, Jean-Pierre Changeux. Qu'est-ce que vous avez dans votre cerveau que je n'ai pas et qui fait que vous êtes un savant et que moi, je ne le suis pas ?
Bon, je pense qu'il y a surtout une éducation et un métier, sans ça de différence majeure entre votre cerveau et le mien, non ?
Nous avons
des cerveaux d'hommes l'un et l'autre et une unité d'organisation et de fonctionnement cérébral. Vous avez un métier, j'en ai un autre, j'ai un métier de scientifique que j'essaye d'exercer le mieux possible. Et mon cerveau... fonctionne d'une manière tout à fait normale. Je vois pas pourquoi un scientifique aurait un cerveau différent de quelqu'un qui travaille, qui fait de la philosophie.
Les neurosciences, ça reste un domaine tel qu'on le définit aujourd'hui, très récent. La neurologie en tant que discipline, c'est apparu vraiment au 19e siècle, hein, avec notamment les neurologues français et Jean-Martin Charcot et l'école de la Salpêtrière. Après, l'intérêt que les hommes ont eu pour le cerveau et pour comprendre ce qui se passait dans nos têtes et où était le siège de l'âme, c'est des questions qui ont vraiment vraisemblablement toujours existé, puisque les premières traces qu'on peut trouver, hein, c'est les crânes trépanés, hein, du néolithique, 30 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui a été, qui est au croisement de plusieurs considérations, comprendre comment on fonctionne, comprendre où est le siège de l'âme. Les Grecs s'y sont extrêmement intéressés, avec des hypothèses différentes, hein, le cardiocentrisme et le cérébrocentrisme, où à la base on pensait que le cœur était le centre, vraiment là où on avait nos émotions, là où on était, là où tout se passait finalement. Et la compréhension de l'intérêt, de l'importance du cerveau, elle s'est faite de façon très progressive, avec des allers-retours, hein, comme c'est souvent le cas dans la science, hein, c'est vraiment des avancées qui peuvent être entrecoupées de recul. Mais c'est vraiment à partir de la Renaissance où on voit qu'il y a eu des travaux très importants qui ont été entrepris, avec des travaux de dissection, ou en tout cas dans la médecine occidentale et dans la culture occidentale, qu'on a remis le cerveau finalement au centre des préoccupations. Ce qui n'a pas forcément été le cas au Moyen-Âge, mais qui était le cas, par exemple, en Perse ou dans le monde arabe, où il y avait vraiment des différences de considération et de pratique. Le terme neuroscience reste quand même relativement récent. Après, il y a un ouvrage justement qui retrace l'histoire du cerveau qui met quelque chose de très intéressant en valeur, c'est que finalement le cerveau a deux histoires, une histoire biologique et une histoire culturelle, et c'est cette histoire culturelle finalement qui est au croisement de différentes disciplines et de différentes questions existentielles. Et je pense qu'il est un peu artificiel de vouloir séparer les disciplines quand on s'intéresse à l'organe qu'est le cerveau, puisque effectivement on est au croisement de beaucoup de disciplines. Les progrès qu'on a aujourd'hui, en tout cas les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de vraiment de millénaires de travaux, d'idées, d'avancées et de dialogues entre scientifiques, entre religieux, entre philosophes. Donc je pense que la représentation qu'on a actuellement est vraiment le fruit de tout ça et pas uniquement une pensée purement scientifique, même si effectivement c'est maintenant la coloration principale, hein, qu'on a quand on parle de neurosciences. On parle de science, on parle de médecine, voilà. Mais tout ce qu'on voit notamment sur l'intelligence artificielle, sur la notion de soi, d'identité, ça revêt aussi des questions philosophiques. Donc je pense que la richesse vraiment de ce domaine, c'est de conjuguer plusieurs disciplines.
Le cerveau, 1,5 kg de matière grise, composé à 90% d'eau et de mystère. Un iceberg dont on ne connaît que le haut, disent les chercheurs. Et voici pourtant ce qu'ils ont réussi à nous montrer. Un réseau de communication ultra sophistiqué dans lequel nos cellules nerveuses ne cessent de s'activer. En accélérant environ 1000 fois les images saisies par leur microscope, les scientifiques ont décodé une partie de ce balai incessant. Des milliards de cellules reçoivent, analysent et transmettent des messages.
Pour Henri Molaison, c'était ce patient qui a subi une ablation des hippocampes parce que c'était un patient avec des crises d'épilepsie très violentes et qui du coup a permis de découvrir en fait la fonction des hippocampes puisqu'il n'arrivait plus à former de nouveaux souvenirs après son opération. Et c'est assez rigolo que vous mentionniez Dory puisqu'il y a une étude scientifique, hein, très sérieuse, hein, qui a été réalisée sur la représentation qu'on a des pathologies neurologiques dans le cinéma, dans ce que les films qu'on peut avoir en tant que grand public. Et Dory, c'est finalement la meilleure représentation d'une amnésie qui est accessible au cinéma. Tout ce qu'on voit sinon dans d'autres films où voilà, l'amnésie est le centre de l'intrigue, souvent ce sont des représentations biaisées, et ce qui peut poser problème d'ailleurs ensuite dans la relation médecin-patient, puisque finalement on croit connaître les symptômes, on croit connaître le déroulé, alors que les représentations qu'on a pu voir sont fausses. Donc pour le coup, Dory, c'est un exemple Pixar, et Pixar en général, ils font beaucoup de recherches dans ce qu'ils présentent, donc c'est assez intéressant. Et pour le coup, Odor, oui, maintenant ça deviendrait l'exemple, on va dire, moderne, en tout cas la vulgarisation de l'histoire de Louis-Victor Le Borgne. Effectivement, c'est ce genre de choses. Après, c'est des cas qui sont tellement parlants, ou en tout cas tellement singuliers, qu'effectivement, ils sont forcément après romancés, ou parce que ça parle aux gens. En fait, c'est quelque chose de curieux et de singulier. Et donc, effectivement, c'est pas étonnant qu'on retrouve des transcriptions ou des personnages inspirés d'eux dans la littérature, dans le cinéma et dans la culture actuelle.
Bon, tu me lâches, oui?
Quoi?
J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça?
Hein?
T'as un problème, petit? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes.
Enfin!
Arrête de me coller aux nageoires!
Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau?
Un bateau? Oh! J'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute. Il est parti par là! Suivez-moi!
Attendez! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était parti, ce bateau?
Ah oui? Oh non.
Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown.
Non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate.
Des troubles de la mémoire immédiate? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille... Enfin... En tout cas, je crois.
Il y a toujours dans la littérature médicale ce qu'on appelle les case reports, en fait les cas cliniques, de choses singulières, intéressantes, qui en tout cas suscitent le débat ou qui sont très surprenantes. Pour moi, ça reste l'essence de la médecine, hein, la clinique. L'imagerie, c'est effectivement un outil incroyable. Il y a maintenant aussi le géo de résolution. Tout ça, toutes ces techniques dont je pense rêvaient nos collègues du passé permettent de faire beaucoup de choses, mais je pense que c'est vraiment indissociable de la clinique et les deux vont de pair. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et la clinique sans l'imagerie, maintenant, parce qu'on travaille beaucoup avec l'imagerie, elle serait beaucoup plus pauvre. En tout cas, on perdrait des informations précieuses et l'imagerie sans la clinique n'a pas beaucoup de sens à mon idée. Mais donc, effectivement, on a la chance à notre époque d'avoir ces deux aspects et je pense que c'est la conjonction, encore une fois, de toutes ces techniques et de toutes ces disciplines qui font qu'on avance. Ce qu'il y a de passionnant dans le cerveau, en fait, c'est un organe qui reste encore très peu connu. Enfin, je pense que les connaissances qu'on a actuellement, bien qu'elles soient énormes, on est loin de tout connaître et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un organe qui rassemble aussi beaucoup de questionnements, hein, puisque faire le lien entre la pensée et l'imagerie, c'est pas encore le cas. Ça recouvre tellement de choses, enfin qu'une lésion cérébrale entraîne des conséquences sur une personnalité, sur le fonctionnement du corps entier. Je trouve ça passionnant. Et effectivement, là, quand on voit aussi la richesse du programme, de ce qu'on réussit à faire, c'est que ça touche en fait vraiment beaucoup de gens. On est tous intéressés, je pense, plus ou moins, mais en tout cas, on est tous intrigués par le cerveau. Ça peut faire peur, ça peut intéresser. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je trouvais que effectivement la semaine du cerveau, c'était le moyen de faire un moment d'échange privilégié entre scientifiques et médecins et avec le grand public, puisqu'en fait ça rassemble au même moment dans le monde entier. C'est ça qui est quand même incroyable dans cet événement-là. Toute la population autour d'un sujet commun qui nous intéresse tous, notamment maintenant avec le problème des maladies neurodégénératives, hein, qui sont un sujet très présent dans notre société actuelle. Et puis comprendre comment on fonctionne, c'est quand même, je pense, quelque chose de très intéressant, et en tout cas moi qui me passionne énormément. Je doute qu'on puisse comprendre tout et j'espère qu'il y aura encore des choses à découvrir dans les années qui viennent. Mais non, on comprendra beaucoup de choses, on sera de plus en plus précis. Mais je ne sais pas si on arrivera à tout comprendre et je ne sais pas si j'ai envie qu'on arrive à tout comprendre non plus.
C'était le docteur Manon Auffrette. Je le rappelle, la semaine du cerveau commence dès la semaine prochaine, le 11 mars donc, et ce jusqu'au 15 mars avec des conférences, des ateliers, des bars en sciences et même des expositions. Pour en savoir plus, allez bien sûr sur le site de Rennes 1, la semaine du cerveau.